la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Kirill Serebrennikov, cinéaste russe en exil, revient sur grand écran avec l'adaptation au cinéma de La disparition de Joseph Mengele, écrit par Olivier Guez et paru en 2017. Un film troublant. Joseph Mengele était le médecin tortionnaire à Auschwitz qui menait des expériences morbides sur les jumeaux, les personnes en situation de handicap et tout type de corps qu'il jugeait entre guillemets anormaux. Serebrennikov retrace sa cavale après la guerre, 30 ans passés à fuir et à utiliser différents pseudonymes pour passer à travers les mailles du filet. Mais ce n'est pas la traque policière qui intéresse le cinéaste. Dans un entretien pour France Culture, il s'exprime sur son personnage principal, anti-héros par excellence. La haine de Mengele a détruit son âme, cette haine que ce régime a transmise et qui a fait un nombre de victimes énormes revient en détruisant son âme à lui. Kirill Serebrennikov dissèque la folie de Mengele comme Mengele disséquait les corps dans les camps avec une précision et un acharnement morbide. L'ancien médecin tortionnaire apparaît lui-même torturé entre lâcheté, impossibilité d'échapper à ses crimes et assurance dans ses idées toujours bien ancrées. C'est pendant les échanges avec son fils jeune adulte en quête de réponse que les idées nazies prennent le pouvoir sur Mengele. Il les clame, les hurle, suffoquant de haine. Le corps de celui qu'on nommait « l'ange de la mort » est également filmé de très près, notamment dans sa fin de vie, tout comme le sont les corps des internés des camps. Ce miroir des représentations m'a questionné cependant. Les corps filmés ne sont plus ceux des victimes, mais celui du bourreau. Comment montrer les camps? Comment montrer l'horreur? Faut-il même la montrer? Peut-on humaniser le corps d'un criminel nazi? Dans un film entièrement en noir et blanc, les seules séquences en couleur sont celles dans le camp d'Auschwitz, comme une incursion relevant du cauchemar. Ces images, prenant la forme d'un film amateur tourné par un soldat SS, sont insoutenables, révélant les activités du médecin. Film d'horreur. Ce qui est certain, c'est que Kirill Serebrennikov nous fait voir, et sans détour, les horreurs du nazisme. On connaît cet adage. Le fascisme, ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue à cause des cons. Dans ce film, c'est de toute évidence la déchéance d'un fou qui est mise au centre de l'œuvre. Au sommaire ce soir dans la matinale, un programme qui change de d'habitude et qui finira un peu plus tôt, les aléas du direct finalement. Dans le Zoom, on reçoit François Beaudenon, programmateur du Festival des Primeurs à la MJC de Massy-Palaiseau. Ce sera en deuxième partie d'émission. Avec nous également, Francesca se demandera où en est l'enquête du braquage au Louvre, réponses et zones d'ombre dans sa chronique. Sa chronique sera suivie par celle de Yamina qui nous partagera son coup de cœur artistique, l'exposition Paname par Bilal Hamdad au Petit Palais. En toute fin d'émission, Baya viendra nous parler de l'activiste Yonka Milan. Mais tout de suite, c'est l'heure du Flash Info présenté par Rania. Et c'est parti pour la matinale de Radio Campus Paris.
Le flash info de la matinale de 19h.
Bonjour à tous, 20 ans, jour pour jour. Il y a 20 ans, les jeunes Ziyed et Bouna étaient tués dans la ville de Clichy-sous-Bois. 20 ans après, ce lundi 27 octobre, nombreux sont les passants qui se recueillent sur les tombes de ces jeunes de 17 et 15 ans. Une cérémonie commémorative est aussi organisée en ce jour, dans le collège où ils étaient tous deux scolarisés. Électrocutés dans un transformateur EDF dans lequel ils s'étaient réfugiés pour échapper à un contrôle de police, des émeutes sans précédent avaient éclaté partout en France suite à leur mort, ouvrant le débat donc de la relation entre police et citoyens. Donald Trump ne semble pas perdre son objectif de prix Nobel de la paix. Le président américain présidait le 26 octobre le sommet de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est dans le but de signer un accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge. Pari réussi pour l'homme le plus puissant du monde puisque les présidents asiatiques le voient maintenant en faiseur de paix et le remercient chaleureusement. Trump continue dans sa lancée en acceptant une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping de rétablir des négociations constructives quant à la guerre commerciale qui oppose les deux pays. Le Sénat en France rétablit la réforme des retraites. Et oui, Gérard Larcher, président de la Chambre haute du Parlement, confirme sa volonté de maintenir le texte. Pour le PS, il pourrait s'agir d'une victoire. La taxe Zucman serait en pleine examination, tout comme des mesures de justice fiscale et taxation des hauts revenus, notamment réclamées par les partis de gauche.
La matinale de 19h.
Et maintenant, Francesca revient sur l'affaire qui fait couler l'encre depuis lundi dernier, le braquage du Louvre. Où en est l'enquête ? Réponse tout de suite.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, braquage du Louvre, où en est l'enquête ? Un sujet qui est maintenant devenu international. Voilà 8 jours que nous sommes en course pour sauver notre mémoire. Je rappelle les faits. Paris, dimanche 19 octobre, il est un peu plus de 9h30, un commando de 4 hommes grimpe jusqu'à la galerie d'Apollon, brise une fenêtre, fracture 2 vitrines et repart en moins de 8 minutes. 8 joyaux de la couronne disparaissent. La couronne de génie sera retrouvée abîmée. Le préjudice est estimé à 88 millions d'euros. Les braqueurs arrivent en camion de chantier, nacelle élévatrice, combi, outils professionnels. Ils visent des pièces symboliques, diadèmes, parures du Second Empire, un collier offert par Napoléon Ier. Le tout exécuté avec précision. Ils s'échappent sur des scooters, sans violence, mais le choc est immense. À travers ces bijoux, c'est un morceau d'histoire de France qui s'envole. Alors, 8 jours plus tard, où en est l'enquête ? Plusieurs interpellations, 2 suspects arrêtés près de Paris, dont un à Roissy au moment où il tentait de quitter le pays. Les gardes à vue se poursuivent. Les enquêteurs cherchent d'éventuelles complicités et pour l'heure, aucune des pièces manquantes n'a été retrouvée. Une enquête longue, méticuleuse, qui s'annonce complexe. Une centaine d'enquêteurs donc sont mobilisés, la BRB en tête, épaulée par la BRI, et une cellule œuvres d'art et bijoux. Grâce aux caméras, ils reconstituent la fuite, puis croisent les données téléphoniques. Qui a appelé qui ? Quels portables se sont allumés ou éteints autour du Louvre ? Un travail simultané sur 3 fronts, la vidéo, la téléphonie et le renseignement. Les enquêteurs penchent sur une filière internationale habituée à démonter ou fondre les pièces pour brouiller les pistes. Pièce maîtresse de l'opération, bien sûr, la nacelle élévatrice. Volée quelques jours avant le casse, à Louvre, la commune cette fois-ci, dans le Val d'Oise, repérée sur une annonce en ligne, elle aurait été empruntée pour le braquage. Les enquêteurs exploitent tout, gants, casques, outils et trajets du véhicule. La logistique du cas se dévoile morceau par morceau. En attendant, des mesures sont prises pour prévenir tout nouvel incident. Bien sûr, le Louvre a transféré une partie de ses bijoux à la Banque de France sous escorte. Un audit de sécurité est lancé. Le musée assure que ses systèmes d'alarme ont fonctionné, mais l'affaire relance le débat sur la protection des trésors nationaux. Et maintenant, c'est une course contre la montre. Chaque jour compte. Plus le temps passe, plus le risque grandit que les bijoux soient démontés, transformés ou revendus. Objectif donc, remonter la filière, frapper vite et bloquer toute sortie du territoire grâce aux notices internationales déjà diffusées. 8 minutes au musée, des mois d'enquête à la clé, un braquage d'exception et une bataille pour la mémoire de notre pays.
Merci Francesca. On revient après une petite pause, on écoute Don't Disturb Me de Uzi Freja qui sera présente au festival Les Primeurs dont nous parlerons avec François Beaudenon en deuxième partie d'émission.
Shining body stepping pad, body smooth, body cool, I don't give a damn. Bloody shoes, freaky dress, I am saving them. Openness, elegance, freaky kicking out. Fall in love, lost myself, take a good ride. Desi shem, damnation, no fucking tears to cry. I found myself step by step, now you acting mad. Yeah, I don't care, I don't give, I can feel it them.
I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my soul. Negativity, I hit it with a suit. Pros by, yes, that's a fact. I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my soul. Negativity, I hit it with a suit. Pose by, yes, skin, that's a fact.
Chérie Coco, vas-y dis-la. Je me casse avec mes copines, on te renvoie par l'ascenseur. Hey. Chérie Coco, vas-y dis-la. Tu joues avec mes sentiments, te montes bien en l'air. Hey.
Je suis happy, je m'en fous de ce que tu veux. T'as zéro moula, tu veux jouer au couvre-feu. Je suis happy, je m'en fous de ce que tu veux. Ce badge transcende tous ces pétasses enrageuses. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lècheras tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lècheras tout à l'heure. I am happy. I am happy. I feel good. I am happy. I feel good. I am happy. I don't care what you want. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lècheras tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
C'était Don't Disturb Me de Uzi Freja. Il est 19h12 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et tout de suite, Yamina nous a rejoint pour partager son coup de cœur artistique. Il s'agit de l'exposition Panam par Bilal Hamdad qui a lieu au Petit Palais. On t'écoute.
Le peintre Bilal Hamdad, peintre d'origine algérienne, expose depuis octobre ses œuvres à Paris, dans le célèbre écrin du Petit Palais. Ses peintures sont à admirer jusqu'au 8 février 2026. Il est diplômé des Beaux-Arts de Sidi Bel Abbès et des Beaux-Arts de Paris. Bilal Hamdad s'inspire souvent des photos prises sur le vif à Paris pour réaliser ses grandes peintures à l'huile. Des peintures modernes, dans les clairs-obscurs intemporels et réalistes. Cette expo a pour nom Panam. Ces tableaux mettent en scène des solitudes dans la foule ou encore des portraits intimistes. Le réalisme qui en ressort est saisissant. Et lorsque nous nous en approchons, nous y voyons un concentré de plusieurs techniques picturales, comme les jeux de lumière et le choix des couleurs. Une vingtaine de tableaux sont proposés, avec une invitation à nous balader à travers le musée pour les trouver. En effet, ces peintures sont mêlées à celles de la collection permanente du musée. Une approche ludique qui titille notre curiosité. Lors de la visite, on ne peut s'empêcher de faire des liens entre ses œuvres à celles de ses maîtres, comme Manet, Courbet et tant d'autres. L'artiste a l'œil pour capter Paris, ville cosmopolite, moderne et dans le vent. Cela n'empêche pas d'y retrouver des défauts du quotidien des capitales, comme la solitude. Le tableau, intitulé « Rive droite », où l'on voit des passants ainsi que des usagers des transports en commun sortir d'une station de métro, donne cette impression de mouvement et de mixité. Les murs sont tagués et en premier plan, le fameux vendeur de Maïcho, une fresque moderne de la capitale proche de nous. Cette capture d'un instant à Paris est si bien résumée dans ce tableau. Un peu plus loin dans la galerie, nous sommes devant un portrait, Olivia, une jeune fille le regard tourné vers le ciel. Sa posture y est enfantine, simple et libre. Cette citadine est loin des clichés des jeunes filles hype des magazines. Et pourtant, on y voit une Parisienne. Bilal Hamdad a réussi à partager sa vision de la capitale à la fois personnelle et universelle. Il est aussi possible de découvrir ses œuvres en sa compagnie lors d'une visite privée à réserver sur le site internet du musée. Cette exposition temporaire est gratuite et toutes les infos pratiques sont à retrouver sur www.petitpalais.paris.fr.
Merci Yamina. Et tout de suite, on écoute Use Knife de Iraqi Drumset. Restez avec nous, on se retrouve juste après. C'était bien,
c'était grave.
Yeah.
C'était Use Knife de Iraqi Drumset. Il est 19h22 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Ce soir dans le Zoom, on reçoit François Beaudenon, programmateur des primeurs de Massy, un festival qui se tient chaque année au Pôle B de Massy. À mes côtés pour ce Zoom, Diane qui va mener cette interview. Salut Diane.
Salut. Alors bonsoir François, comment vous allez déjà à quelques jours, J-2 du début du festival? Vous vous disiez un petit peu en coulisses que c'est les derniers détails, etc. C'est la frénésie?
Ouais, c'est ça, bonsoir. C'est, ça y est, c'est ce que je disais, c'est l'excitation qui monte, c'est à la fois c'est speed parce qu'on est en plein montage, donc on transforme le lieu. Parce que c'est une salle de concert qui tourne toute l'année, Paul B, mais qui se transforme complètement pour le festival, donc pour les 4 soirs du festival. Et là, on est du coup en plein dedans. Et puis du coup, là, ça y est, on sent la frénésie monter et l'excitation, parce que ça commence en effet dans 2 jours.
Le festival a été créé en 1998. Je n'étais pas née à cette époque. Moi, je suis née en 99, donc je ne suis pas pas très tard après. Depuis le début, vous avez une volonté de mettre en avant des artistes qui ne sont pas encore connus ou qui sont au début, on va dire, de leur création musicale. Pourquoi ça a été cette volonté depuis le début et comment on fait aussi pour la garder sur le long terme?
Ouais, alors en 98, c'est pareil, je suis un peu plus vieux, mais j'ai pas été à l'origine du festival. J'y suis arrivé quand même pas si longtemps que ça après, j'ai raté 6 éditions quand même sur les 28. Mais l'idée, elle était venue d'une absence d'endroits et de lieux et de festivals qui mettent en avant l'émergence musicale. Donc en fait, les deux créateurs du festival, l'un était producteur de spectacles, de concerts, et l'autre était directeur de Pôle B. Et en fait, ils partageaient ce constat de se dire l'émergence n'était vraiment pas prise en compte comme elle l'est maintenant dans les salles et les festivals. Et du coup, ils ont eu cette idée, ils se sont dit, il y en a un qui avait des artistes, l'autre qui avait une salle, et ils se sont dit, allons-y, quoi, essayons de monter un événement pour mettre en avant l'émergence, les jeunes artistes. Ils se sont dit que le moment du premier album était un moment charnière dans la carrière d'un artiste, un moment d'affirmation, où ce qu'on a commencé à faire avant à travers des singles ou des EP, on le mature et on commence à... Il y a un côté... On s'affirme à travers un premier album et on dit ça y est, on est arrivé à un format et un style qu'on a déjà un peu travaillé, mais qu'on peut affirmer de cette manière-là. Et voilà, donc du coup, ils sont partis sur cette idée de premier album. Et depuis 28 ans, ça marche. C'est-à-dire que les artistes continuent à sortir des premiers albums. je dis ça, c'est un peu provoque, mais c'est vrai qu'à une époque, on s'est un peu posé la question, quoi, avec l'évolution de la façon de produire de la musique, avec la plateformisation de l'écoute musicale. Il y a des artistes qui mettent plus longtemps avant de sortir un premier album. Il y a de plus en plus de singles. Ça peut sortir comme ça, un peu au fil de l'eau, trouver son public. On s'est dit, est-ce que le premier album va continuer à rester un moment important dans la carrière des artistes? Il semble que ça le soit. Après, on verra dans les années suivantes. Mais...
Et en plus, je rebondis sur ce que vous dites. Chaque année, vous avez une programmation quand même très diverse. Vous avez eu Clara Luciani, Olivia Ruiz, Pierre Demar ou encore Zao de Sagazan. Et votre objectif, votre intention, c'est de mettre en avant des artistes émergents. Comment on fait pour trouver à chaque fois des nouveaux artistes, des nouvelles pupites aussi de demain, et se renouveler et avoir tout le temps des nouveaux artistes qui sortent des premiers albums mais qui vont aussi en sortir d'autres, qui vont pas juste faire
qui vont faire carrière.
Comment on fait pour
ça? C'est des paris à chaque fois, on n'est jamais sûr de rien, il n'y a pas de recette bien entendu, ni pour les artistes pour faire une carrière longue, ni pour nous programmateurs pour les trouver. Donc c'est un peu de feeling, beaucoup de feeling et de patte artistique du côté des musiciens, des musiciennes. Mais nous, on passe notre temps dans les salles de concert, à repérer, à aller voir des concerts, à repérer des jeunes artistes, en lien avec des agents et tout le milieu, toute la profession qui encadre l'émergence et qui essaie de trouver justement les artistes intéressants. Et on travaille beaucoup avec des agents qui eux repèrent aussi des artistes, qui nous disent viens le voir, il joue tel jour à la Boule Noire, tel jour dans tel festival. Donc voilà, c'est notre boulot. Comme je vous le disais là à l'instant, il y a des artistes, ça fait 3-4 ans qu'on les a vus émerger en fait, et qu'on les voit maturer, mûrir leurs propos artistiques, et puis ils arrivent au moment du premier premier album et c'est chouette, on peut les programmer à ce moment-là. Certains ont déjà joué à Paul B sur des premières parties par exemple, parce que ça fait un petit moment qu'on les suit et qu'on les surveille de près pour voir comment s'ils évoluent d'une manière qui nous plaît à nous, quoi. Mais après voilà, le taf de programmation, c'est hyper subjectif aussi. Bon, on essaie de, comme tu l'as dit, on est très éclectique dans notre programmation, y compris au sein des soirées. On n'aime pas faire une soirée avec une couleur, voilà. On aime bien mélanger des styles. Il peut y avoir aussi bien du rap que du rock, de musique hybride, jazzy, weirdo, tout ce qu'on veut. Enfin, j'aime pas trop les étiquettes justement. Mais
oui, je comprends.
Voilà, le but du jeu, c'est de se dire, ben, à un moment donné, c'est un instantané de nous ce qu'on a aimé dans une année musicale de sortie. Et on a un vrai dernière chose, on a quand même un vrai goût pour le live parce qu'il y a aussi des projets qui sont des fois des projets purement discographiques, qui sont des très beaux albums, mais qui n'ont pas vraiment de réalité scénique. Et nous, on les présente sur scène au public, donc il faut qu'il y ait ça aussi. C'est pour ça qu'il
y a un artiste aussi qui ait une présence sur scène et qui a un intérêt pour le public de venir aussi.
C'est ça.
Il y a un sujet qui est important aussi. Vous êtes à un festival qui existe depuis maintenant plusieurs années. Il y a un an, le département des Pays de la Loire a annoncé une coupure budgétaire importante pour le secteur de la culture. Donc, même avant ça, il y a quand même de gros festivals qui ont de la peine à financer leurs projets. Les Primeurs, ça existe depuis 1998. Vous continuez quand même d'être un festival important pour des découvertes musicales. Comment on fait pour garder aussi cette intention de rester un festival à taille humaine, qui ne soit pas trop gros, et en même temps, comment on fait pour arriver à tenir ses frais et ses besoins et d'inviter aussi des artistes qui ont quand même un intérêt pour la découverte musicale?
Bah, c'est pas simple.
Je comprends.
C'est pas simple. Après, il y a un truc qui nous sauve, parce que c'est vrai que l'économie du live en ce moment, enfin depuis quelques années, elle est perturbée, vraiment. Par l'explosion des coûts de production, par l'explosion des cachets artistiques, par une baisse des subventions publiques, effectivement, dans certains endroits aussi. Peut-être par une concurrence aussi généralisée, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'événements aussi, ça c'est réel. Il y a des questions qu'on doit se poser aussi de notre côté. Nous, je pense qu'on est un peu particulier, parce qu'on reste, par la forme, on est un petit festival. On a une économie, comme tu le disais, on a une échelle qui est très... c'est un festival de salles à l'automne. On n'est pas sur une jauge énorme, on fait venir des artistes émergents. Donc, par définition, on ne subit pas l'inflation des gros cachets, des mastodontes qui remplissent les gros festivals et qui sont, pour beaucoup, la cause aussi de l'économie fragile de ces gros festivals, quoi. Parce que pour arriver à faire venir 30 000 personnes, il faut débourser des millions d'euros pour un artiste. Forcément, l'économie du festival, elle se tend. Nous, on n'a pas ce problème, même si les coûts de prod ont augmenté ces dernières années aussi, un peu mécaniquement. Bon, après, on a la chance d'être adossé à l'économie de la salle de concert, qui est stable pour le moment. Nos financeurs, parce que c'est vrai que sans argent public et sans l'aide de la ville de Massy, du ministère de la Culture, du département, on ne pourrait pas produire un événement comme ça. Il n'est pas rentable. Par définition, un événement sur de l'émergence, il n'est pas rentable. Donc, si on n'a pas de l'aide publique, on ne peut pas le faire. On a la chance, pour l'instant, à Massy, d'avoir cette aide qui n'est pas touchée. J'espère que ce sera le cas encore quelques années. On croise les doigts, mais c'est vrai que les temps ne sont pas faciles, quoi.
Ok. Ils avaient aussi une réelle volonté solidaire et écologique. Alors, j'ai cru comprendre que vous avez à avoir un stand de sérigraphie pour repartir avec un souvenir via des t-shirts qu'on peut ramener nous-mêmes. Il y a aussi une réelle billetterie solidaire pour chaque achat possible. Pour chaque achat de billets, on peut faire un don pour l'achat d'une place pour une personne précaire. Et vous avez aussi organisé en amont du festival un chantier participatif pour l'installation du festival et la décoration. Est-ce que vous pouvez nous en parler de toutes ces actions et pourquoi c'était nécessaire aussi pour vous de faire en sorte qu'un festival, il ait aussi une dimension écologique et du coup humaine?
Alors la dimension humaine, elle l'a par sa taille. C'est un festival qui est très ancré sur son territoire, qui a un public qui est plus large que celui de la salle de concert, parce qu'à un moment donné, la notoriété du festival est un peu plus importante et draine un public d'un peu plus loin. Après, cette dimension écologique, enfin développement durable, ça fait un moment qu'on essaye de la mener sur la salle de concert, tout au long de l'année. On a fait plein de choses pour essayer de créer moins de déchets, d'être plus moins énergivore, enfin voilà, ce genre de choses. On fait beaucoup de choses à cet endroit-là. On aime aussi faire participer les gens, les gens qui soutiennent la salle, les gens du coin, et des projets participatifs comme ça, d'ouvrir un peu la déco du festival à une équipe qui vient nous renforcer et qui a plaisir à le faire, qui travaille avec notre équipe de déco et tout, c'est super. Enfin, voilà, ça c'est des choses qui permettent de créer aussi une dynamique locale, intéressante, quoi. Et puis qu'on ne soit pas juste un lieu de consommation de concerts où les gens payent une place, viennent et puis repartent. Enfin voilà, il y a du public qui fait ça, bien entendu, mais si on peut aller un peu plus loin dans la relation qu'on a avec les gens, c'est chouette et ça le permet, quoi.
Oui, et puis ça crée un souvenir aussi pour les personnes qui participent, j'imagine. Il n'y a pas juste on va faire un concert et puis c'est fini. Est-ce qu'il y a une soirée du coup à garder en tête pour ce festival Les Primeurs? Comme j'aime dire, un artiste à aller écouter pour se dire, moi, je l'ai connu avant tout le monde. Je l'ai vu en live avant qu'il soit connu. Du coup, c'est dans quelques jours. C'est le 29, 30, 31 octobre et 1er novembre. Est-ce que vous avez un artiste à nous conseiller
J'ai toujours du mal avec ça parce que j'ai pas envie d'en. On les défend tous, bien entendu. Quoi. Après, il y a des projets qui sont tellement différents et tellement singuliers. Ouais, moi, il y a une artiste, je sais en tout cas, que j'aime beaucoup personnellement, mais comme d'autres dans la programmation, mais qui, je sais, ne laisse vraiment pas les gens indifférents quand ils viennent la voir, parce que c'est vraiment une performeuse et une artiste de live. C'est Gilda qui jouera le deuxième soir. Voilà, donc si j'en sortais un, j'aime pas faire ça. Hein. Ils sont tous bien.
Ok, merci beaucoup. Alors pour rappel, le festival Les Primeurs, c'est du 29, 30, 31 octobre et 1er novembre 2025 à Paul B, la MJC de Massy-Palaiseau. Toutes les infos sont sur le site paul-b.fr ou sur les réseaux de la MJC et du festival.
Alors, c'est pas une MJC, c'est une scène de musique actuelle. C'est pas très grave, on s'en fiche un peu, c'est des dénominations, mais
c'est pas grave.
Et juste, c'est un tarif aussi moins de 26 ans.
Oui.
Voilà, je tiens à le préciser parce que quand même, on fait un effort pour les jeunes qui est à 10 euros la soirée.
Super, c'est noté pour les personnes qui ont moins de 26 ans, je ne fais plus partie car j'ai 26 ans. merci beaucoup François.
Merci beaucoup François pour votre présence dans le studio et on revient tout de suite après Tokolambate de Kingolo Kungolo Kinyata, pardon, également présent au festival Les Primeurs. Thank you. c'était Toko Lambaté de King Kongolo Kinyata. Il est 19h37 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et maintenant, Baya nous a rejoint dans la matinale pour nous parler de la COP30 et de Yanka Milan, membre du peuple Mapu de Puel Mapu et activiste. Pascal fera ensuite un zoom sur les combats actuels de la militante et de sa communauté concernant une entreprise d'eau israélienne, Mekorot. Mais tout de suite, Baya, on t'écoute.
Merci Juliette. Alors, 10 ans après l'accord de Paris, la COP30 se tiendra du 10 au 21 novembre à Belém, au Brésil. Ce sera l'occasion de faire un bilan avec tous les pays sur l'objectif de ne pas dépasser les 1,5 degrés. Tout le monde n'a pas rendu les copies, mais pour l'instant, seul le Royaume-Uni et la Norvège respectent les accords de Paris. On verra pour les autres, mais cela ne vous étonnera pas qu'on est loin d'être passé dans une phase de sobriété. À la COP30, la question financière y sera centrale. Le président brésilien Lula veut également braquer les regards sur la lutte contre la déforestation.
À chaque COP, il existe toujours des voix qui ont moins d'écho que d'autres. Ce sera toujours le cas avec cette COP30, Baya.
Oui, exactement. Les autochtones, premier peuple victime des activités extractivistes et du changement climatique, porteront leur voix à demi-mot. Des marches et des sommets annexes seront organisés. Mais une des plus fortes revendications, c'est celle de transformer les COP en des espaces réellement démocratiques et non plus technicistes. Depuis un an, une coalition de peuples autochtones, La Réponse c'est nous, composée de représentants de toute l'Amérique latine, appelle à intégrer les espaces de négociation officiels pour que leur voix possède le même poids que des délégations nationale.
Et si les autochtones n'ont pas un espace qui leur est dédié aux COP, ils luttent chaque jour pour la défense de leurs terres.
Oui, c'est exact, Juliette. Et j'aimerais parler de Yanka Milan, militante féministe qui fait partie du LOF Pian Mawiza de la communauté des Mapuche en Argentine. Mapuche signifie peuple de la terre et ses membres sont confrontés depuis des années aux géants Lewis et Benetton et Eramet qui puisent les sols à la recherche des minerais précieux pour nos énergies renouvelables.
Et depuis l'arrivée au pouvoir en 2023 de Javier Milei en tant que président, les choses ont empiré pour les droits autochtones ?
Eh bien, déjà, on pourrait dire que la spoliation des terres autochtones date depuis la colonisation espagnole. Mais avec Javier Milei, les autochtones sont traités de plus en plus de terroristes et d'usurpateurs. Pardon.
Mais pourtant, je crois que l'Argentine a ratifié la Convention 169 de l'OIT qui est relative aux droits indigènes et tribaux et que l'article 75 de la Constitution argentine reconnaît le droit des peuples.
Oui, oui, c'est vrai, mais on va dire que ce sont des bouts de papier aux yeux du gouvernement. L'apogée des tensions entre l'État et les peuples premiers se passa en février dernier lors des immenses incendies en Patagonie. Le 11 février 2025, sous l'impulsion du gouverneur de la province argentine Chubut, Ignacio Torres, avec l'accord du juge Alberto Criado et le soutien de la ministre de la Sécurité Patricia Bullrich, la communauté Mapuche subit des perquisitions surprises et illégale. 14 foyers et une radio communautaire sont les victimes de cet événement sous le prétexte que les Mapuche seraient responsables de ces feux de forêt. Plus de 40 personnes ont été touchées, leurs biens ont été emportés, elles ont été frappées, humiliées, retenues pendant des heures sans manger ni boire, certaines sans pouvoir aller aux toilettes. Des personnes âgées, des enfants, des animaux et leurs tatouages ont également été photographiés de manière arbitraire. Les forces de l'ordre ont également privé leur ADN.
Et en ce mois de février, l'État a emporté Victoria Núñez Fernández de façon arbitraire également.
Oui, Victoria Núñez Fernández est une militante et amie de Yanka qui a été accusée de terroriste et de coupable des incendies de Patagonie sans preuve. Mais revenons à Yanka Milan, elle est aussi connue pour faire partie d'une communauté féministe de femmes indigènes.
Et le documentaire « Rébellion de las Flores » auquel Yanka participa met en lumière leur lutte.
Oui, ce documentaire « Rébellion de las Flores » raconte notamment le sit-in de ces femmes en 2019 au ministère de l'Intérieur à Buenos Aires, qui dura 11 jours. Les femmes indigènes réclamèrent leurs terres et l'arrêt des activités minières. Une des particularités de ce groupe de femmes, c'est qu'elles lient deux combats en un. La réappropriation de la terre et du corps des femmes, D'un côté, Pachamama, la déesse de la terre représentant la fertilité, est menacée. Et de l'autre, les corps des femmes ont été violés et contrôlés par les hommes avec la pratique du chineo. Chineo est une tradition raciste héritée de l'ère coloniale espagnole impliquant le viol systématique des filles indigènes dès l'âge de 7 ans par les crios, des hommes adultes détenant un certain statut politique et économique. Yanka porte ses combats partout dans le monde. Comme sa mère, Moira Miran Wetchafe, une guerrière mapuche et leader du mouvement que je parlais avant de ces femmes indigènes. Car Yanka, c'est aussi le symbole d'un héritage, d'une transmission de lutte de génération en génération.
Merci Baya pour ce topo sur ce sujet éminemment politique.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Et maintenant, Pascal fait un zoom sur les combats actuels de la militante Yanka et de sa communauté, notamment au sujet de l'entreprise d'eau israélienne Mekorot.
Et oui, car il y a parmi les entreprises étrangères qui préoccupent les Mapuche, cette entreprise israélienne Mekorot, qui est donc l'entreprise de distribution des eaux israéliennes et qui a signé des contrats avec déjà 10 province argentine. Ça avait commencé avec les provinces de Catamarca, La Rioja et les dernières qui ont rejoint Mekorot sont la province de Jujuy dans le nord de l'Argentine, la province de Neuquén et la province de Chubut. Donc Chubut en Patagonie argentine, c'est là où se situe le Lof Pilian Mahuisa, où vit Yanka Mijan, sa mère Moira et sa communauté. Quel problème cela pose ? Ben, on peut craindre une privatisation des eaux ou en tout cas une mainmise sur une grande partie de l'eau du pays par une entreprise étrangère. Mekorot essaye même de prendre pied dans la compagnie de distribution des eaux de Buenos Aires que le gouvernement Milei a décidé de privatiser. Alors Mekorot ne peut pas racheter cette compagnie. Mekorot signe en fait des contrats de conseil et de planification avec perspective minière. Parce que l'extraction minière, ça consomme beaucoup d'eau, notamment pour les mines de lithium très présentes en Argentine. Je dois faire deux zooms historiques. Déjà, la présence de Mekorot, d'une entreprise israélienne, qui est l'entreprise d'État israélienne, de distribution des eaux, sa présence en Argentine n'est pas complètement un hasard. Il faut savoir qu'au début du sionisme juif en 1897, quand Theodor Herzl et ses compagnons ont décidé de créer un État-nation juif, ils ne pensaient pas forcément à la Palestine pour cet État-nation juif. Ils cherchaient une terre à coloniser qui aurait pu être en Afrique ou ailleurs, et ils ont pensé notamment à l'Argentine. Et aujourd'hui, pour des raisons que je n'ai pas encore complètement creusées, la Patagonie argentine est vue comme une sorte de deuxième terre promise pour les sionistes. Le deuxième zoom historique que je voulais faire, c'était sur la création de Mekorot. Mekorot, en hébreu, ça signifie « source ». Et l'entreprise a été créée en 1937. Alors vous allez me dire, c'est étrange, 1937, l'État d'Israël n'existait pas encore. Et en effet, cette entreprise préexiste à l'État israélien parce que les sionistes avaient déjà dans l'idée que pour, entre guillemets, dompter le territoire palestinien, il faudrait dompter l'eau. Ont-ils fait pour s'implanter alors que l'État israélien n'existait pas ? Eh bien, la Palestine était à l'époque un mandat britannique, donc en accord avec le gouvernement britannique. Depuis, Mekorot est accusé de crimes d'apartheid en Palestine, notamment avec la bande de Gaza. La majorité de l'eau dans la bande de Gaza est distribuée à travers des tuyaux de Mekorot. Et donc Mekorot peut couper l'eau quand ils le veulent, ils distribuent ce qu'ils ont envie de distribuer. Et donc ça pose une question aussi. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est en train visiblement de changer d'avis pour la signature du traité UE-Mercosur avec les pays d'Amérique du Sud, dont l'Argentine. Et donc, on est en train de signer avec un pays qui signe des contrats avec une entreprise accusée de crimes d'apartheid. Et je reviens en Argentine. Qu'est-ce qui est à craindre ? Eh bien, c'est aussi des expulsions, parce que Moira Mijan, notamment la maire de Lianca, pense que les attaques et les accusations de terrorisme contre les Mapuches servent à pouvoir, dans l'avenir, les expulser et faire place nette à des entreprises comme Mekorot.
Merci Pascal pour cette riche chronique. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à notre invité François Baudonon. Merci également aux bénévoles qui ont participé à cette matinale. Baya, Pascal, Diane, Francesca et Yamina. Merci à Théophile qui était ce soir à la réalisation. Merci à Jeanne et Aude qui coordonnent la matinale. Restez sur Radio Campus tout de suite, c'est la nouvelle bouquinerie jusqu'à 21h. Et surtout, retrouvez-nous demain, même lieu, même heure. 19h pétante pour une nouvelle matinale.